Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous partageons un nouvel album de bande dessinée, bien entendu, une parution Glénat avec au scénario une historienne, Marie Bardiot-Vaillant. Je ne sais pas exactement comment on prononce son deuxième nom, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Elle nous avait déjà proposé un ouvrage autour de l'abolition de la peine de mort en France. Donc ça remontait, oui, à quelques décennies déjà. Nous allons partir encore plus loin, là cette fois, pas beaucoup, mais un petit peu plus, en compagnie de Carole Morel au dessin, qui, elle, nous avait proposé, par exemple, l'institutrice récemment, ainsi que Collaboration horizontale auparavant, et puis surtout un album que nous avions commenté ici, qui s'appelait Nelly Bly. Alors, je vous donnerai le titre de l'album d'aujourd'hui, dans quelques instants. Peut-être un petit mot sur Nelly Bly, parce que je me souviens que vous aviez énormément aimé.
J'avoue, je suis humble. Je connaissais à peine de nom Nelly Bly. J'ai découvert que c'était la pionnière du journalisme en immersion. Elle s'était fait interner dans une de ces institutions effroyables où, sous prétexte de soigner, en fait, on enterrait vivant les gens. Il y avait déjà un aspect d'oppression spécifique aux femmes. Parce que l'album dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un portrait de la condition féminine, certes il y a 50 ans, mais qui donne l'impression de revenir à la préhistoire de la condition féminine. On va y retrouver un personnage, moi je suis en admiration totale vis-à-vis de cette personne, c'est Gisèle Halimi. On en avait parlé il n'y a pas longtemps pour une biographie admirable. Une femme d'une intelligence, d'une volonté, d'une force de conviction, d'une éloquence. Pour moi, c'est une femme qui mériterait d'entrer au Panthéon. Et on va la retrouver comme un personnage central dans cet album.
Je sens, Thierry, que la question de la justice et de l'injustice, forcément, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous travaille. Peut-être est-ce que vous avez fait du droit dans une autre vie ?
La faculté de droit, d'économie et des sciences d'Aix-en-Provence. Ah, que de souvenirs. Aix-en-Provence aussi, qui était le théâtre d'un procès où Gisèle Halimi était également partie prenante. Vous voyez, tout est lié, en fait.
Là, on va aller à Bobigny, on est en région parisienne, en 1972, pour le procès qui a non pas ouvert la carrière de Gisèle Halimi, mais qui a été particulièrement marquant par rapport au sujet dont nous allons parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit non seulement de féminisme, mais aussi de la question qui se posait pour les femmes de disposer de leur corps. Manifestement, les hommes pouvaient en disposer largement, mais pour les femmes, elles n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Et évidemment, derrière tout cela, il y a la problématique de l'avortement. À l'époque, rappelons-le, puni pénalement et considéré donc comme un crime.
Oui, c'est un album qui commence comme un polar. Poursuite entre une voiture dont on s'apercevra qu'elle a été volée et un véhicule de police. Un jeune homme se fait arrêter et il va lui en cuire, mais il propose un deal au policier, c'est « je peux vous balancer le nom de ma petite amie qui s'est fait avorter ». Soit dit en passant, c'est un personnage absolument répugnant. Donc la police débarque au foyer de cette jeune fille, fouille, cherche des aiguilles à tricoter. Finalement, c'est non seulement la jeune fille, mais sa mère qui vont être dans le collimateur de la justice pour avortement illégal clandestin. Et c'est le début d'une épopée juridique judiciaire qui a marqué les esprits, puisqu'il suffit d'utiliser le nom Bobigny, de dire 1972 pour désigner le titre d'un album. On sait qu'on est dans une époque qui représente un tournant dans l'évolution de la condition féminine. Il faut rappeler qu'en 72, il n'y a pas si longtemps, les femmes ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire sans autorisation de leur mari. Elles votaient depuis assez peu de temps. En 2024, on a l'impression qu'on est transporté dans une machine à remonter le temps jusqu'à une époque où les fondamentaux n'existent pas assez. Cette question de l'avortement, c'est central, mais en même temps, c'est se dire, est-ce qu'il est juste qu'on soit dans un monde où la condition féminine est dictée par des hommes ? Sans aucun éclairage féminin, ce procès de Bobigny, ça va être l'occasion de voir intervenir des hommes de pouvoir, des politiciens, des hommes de science, qui ont leur conscience, sans mauvais jeu de mots, mais qui sont des gens qui soignent et qui font la part des choses. On a l'habitude de dire, un bon film de procès, c'est presque un pléonasme, parce qu'un procès, il y a une dramaturgie, il y a un théâtre. Et le procès de Bobigny, tel qu'il est raconté ici, c'est une histoire qui est totalement prenante, qui est grave, qui engage beaucoup de choses de l'ordre de la conscience de chacun. Mais c'est surtout l'occasion d'une démonstration d'éloquence de la part de Madame Halimi, qui reste confondante encore aujourd'hui.
Alors, on va continuer de remettre tous ces éléments dans le contexte. Évidemment, ça n'empêchera pas la lecture du livre, parce que vraiment, ce livre mérite d'être lu. Il est à la fois complet et concis, et je pense qu'il présente pleinement le sujet et la problématique qui l'accompagne. Moi, je voudrais mentionner le nom de la maman, Dominique Chevalier, et sa fille, Marie-Claire. Marie-Claire, d'ailleurs, est décédée tout récemment, à l'âge de 66 ans, donc assez jeune. Forcément, à moi, en tout cas, fait quelque chose d'avoir aujourd'hui cet album entre les mains et de savoir que, voilà, ça a été ce parcours-là. Ces deux personnes, on n'en a pas forcément retenu le nom. Par contre, tout autour, il y a évidemment Gisèle Halimi, mais il y a énormément d'autres personnes, comme si ces événements se conjuguaient et permettaient à des anonymes d'être accompagnés par des gens qui avaient, pour le coup, là, pignon sur rue.
Oui, parce que dans la foulée du procès, des débuts du procès, il va y avoir ce fameux manifeste des 343 qui a été publié dans l'Observateur. Précisons que les 343, c'est les 343 les plus connus. Les plus connus des plus connus étant, je prends des exemples au hasard, Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, Simone de Beauvoir. Le manifeste des personnalités qui disent « j'ai avorté, donc je tombe sous le coup de la loi, mais je le fais savoir parce qu'il faut que la loi évolue, que cette jeune fille mineure et que sa mère se retrouve dans un tribunal alors qu'elles ont essayé de préserver leur intégrité physique et psychologique. » C'est une injustice totale, c'est un monde juridique fait par les hommes sans aucun recul. Bobigny, c'est une étape vers la loi Veil aussi. Une étape essentielle dans l'évolution, je me répète, mais il faut le remettre en perspective de nos jours en 2024, dans l'évolution des mœurs, des consciences et de la condition féminine. Ça laisse rêveur et puis il faut y repenser parce que rien n'est gagné, même en 2024. C'est un problème très grave, l'avortement. C'est un problème qui doit être traité avec beaucoup de recul, d'intelligence, de compassion, de bienveillance, et pas de parti pris et pas de politique.
Il faut aussi se souvenir qu'à cette époque-là, comme dans les époques antérieures, les femmes pouvaient mourir.
Ben oui,
même en donnant la vie, d'ailleurs.
Mourir, être mutilé, c'était terrible. Quand on y repense, c'est terrible.
On prend conscience à travers cet album Bobigny 1972 et le fait que nous soit relaté ce procès, on prend conscience qu'en fait, les hommes, vous le disiez tout à l'heure Thierry, décidaient de tout et s'accordaient toutes les libertés. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient les possesseurs de ces femmes, dans toutes les dimensions. Alors je vais jusqu'à dire cela parce que je pense que c'est réellement ce qui se passait. Et que ces femmes se rebellent en disant « ben non, nous appartenons à nous-mêmes », ça a eu beaucoup de mal à passer.
Il faut vraiment se replacer dans cet débat. Est-ce qu'on est capable de le faire, d'ailleurs? On doit être d'autant plus capable de le faire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, même en France, il y a beaucoup de choses qui sont discutées de cet ordre-là. Rien n'est acquis, je me répète, mais il faut le marteler, ça. Rien n'est acquis, et même s'il y a des exagérations dans les deux, j'ai failli dire dans les deux camps, parce que certains veulent que ce soit une guerre, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce procès, du fait que des gens qui ont réfléchi, qui veulent le bien d'autrui, le bien commun, ont pris des risques au plan juridique, au plan médiatique, pour affirmer leur liberté de conscience, leur volonté de faire avancer une cause juste. Je suis désolé, je perds le fil parce que je suis très ému en repensant à certaines phases du procès, de ces personnages féminins. C'est terrible.
Alors, on a mentionné des femmes, mais moi, je voudrais mentionner, des messieurs courageux aussi, parce qu'il y a eu le professeur Monod. Il y a eu Michel Rocard, et moi, je ne savais pas du tout que Michel Rocard était intervenu dans le cadre de ce procès, donc c'est pas rien non plus. Et puis surtout, je voudrais tirer un coup de chapeau au professeur Millier, gynécologue, catholique pratiquant, mais qui a pris clairement position parce que son souhait premier, c'était de préserver la vie des femmes. Et ça, franchement, je pense qu'on devrait avant tout penser aux priorités, précisément. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'avortement, ce soit quelque chose à prendre à la légère, certainement pas. Mais peut-être est-ce qu'il faut remettre les éléments dans l'ordre, assurément. Ça, pour moi, j'en suis convaincu. Évidemment, vous le disiez tout à l'heure, Thierry, ce procès Bobigny 1972, c'est une des étapes vers la loi Veil. Et d'ailleurs, on ne vous le cache pas, le livre se termine par cette loi. Cette loi a ouvert à quelque chose qui s'est fait de façon équilibrée. On peut espérer que cet équilibre perdure. Je vous vois lever les yeux vers le ciel.
Vers le ciel, le plafond du studio.
Oui.
Et bien au-delà.
Alors, nous vous incitons à en savoir plus, peut-être en lisant cet album. Bobigny, 1972, paru chez Glénat. Il y a une bibliographie, évidemment, à la fin de l'ouvrage qui vous permettra d'aller approfondir un petit peu plus encore. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, d'ailleurs, c'est l'occasion de se renseigner, et c'est déjà beaucoup. Au scénario, Marie Bardiot-Vaillant, historienne donc, et Carole Morel. Merci beaucoup, Thierry, d'avoir partagé avec nous ce livre aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures récentes.